Hello.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Virginie Pironon. Virginie, vous nous emmenez ce soir en Chine, dans la province de Zhejiang, où des centaines de milliers de Ouïghours, peut-être même jusqu'à 1 million selon les ONG, seraient internés dans des camps.
C'est 10% de la population de la province. Les Ouïghours, peuple turcophone musulman, sont depuis toujours la cible du régime communiste et le programme de déradicalisation lancé par Pékin inquiète de plus en plus les défenseurs des droits de l'homme. Ils ont manifesté hier devant le siège de l'ONU à New York.
We documented torture. We documented ill treatment. Several of our interviewees told us
Sophie Richardson, responsable de Human Rights Watch en Chine, dénonce des faits de torture, de mauvais traitements. L'organisation a collecté des dizaines de témoignages, endoctrinement forcé, cours en mandarin sur les dangers des idées islamistes. Tout est fait dans ces camps pour briser les Ouïghours, leur langue, leur culture, leur religion, à tel point que certains peuvent aller jusqu'au suicide. La seule façon de sortir, c'est de montrer à quel point on a été bien rééduqué et qu'on sera fidèle au gouvernement. Voilà ce que ça donne. À la télévision chinoise, dans ce qui semble être une sorte de cérémonie de sortie de camp, ce jeune Ouïghour explique à quel point il a appris de ses erreurs passées. À partir de maintenant, il est un bon citoyen, dit-il, et portera la parole du régime autour de lui. Le gouverneur du Xinjiang, évidemment, approuve la méthode employée dans ses centres de formation à vocation éducative, selon la terminologie de Pékin. L'éducation, les cours, dit-il, sont très utiles dans la lutte contre le terrorisme, pour la stabilité du pays, contre les extrémismes. Il ajoute qu'il faut nettoyer l'atmosphère et la terre de ce que le terrorisme et l'extrémisme peuvent engendrer. Alors pour les défenseurs des droits de l'homme, les exactions sont si graves en ce moment que la communauté internationale doit réagir. Elles ont demandé cette semaine à l'ONU la création d'une commission d'enquête au Xinjiang. Réponse de Pékin, des responsables de l'ONU seront accueillis s'ils évitent de s'immiscer dans les affaires intérieures du
pays. Direction maintenant Moscou, Virginie. On parlait de mobilier, tiens, tout à l'heure dans le journal. Voilà ici que le mobilier soviétique redevient furieusement tendance.
Avis aux nostalgiques. Depuis la chute du régime communiste, tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une lampe poussiéreuse en tissu, de vieilles poignées de porte en laiton ou des patères pour suspendre les lourds manteaux d'hiver, eh bien tout cela a été boudé par les jeunes. C'est terminé maintenant. C'est vintage, Fabienne. Le design soviétique est en train de faire son retour en Russie, avec notamment des formations spécifiques dans les écoles ou encore le développement d'ateliers de restauration d'objets anciens. Alors, c'est ce qu'explique ce jeune historien spécialiste du mobilier soviétique. La majorité des jeunes, dit-il, commence à comprendre qu'avoir un vieux placard de sa grand-mère à la maison n'est pas une honte, non, mais au contraire, c'est un symbole d'avancement, mieux s'emparer du passé pour se tourner vers l'avenir.
Allez, aux îles Tonga, on en avait parlé ici même lorsque les liaisons ont sauté. Les habitants ne sont pas franchement ou différemment, on va dire, projetés vers le futur. Et ils sont revenus, l'espace d'un instant, à l'âge de pierre.
Ils ont eu tout le temps, Fabienne, en effet, de reprendre des airs de chant traditionnels ces deux dernières semaines. Ils se sont beaucoup amusés, apparemment. Panne géante d'Internet, donc, vous l'avez dit. Les habitants des 170 îles du royaume, 110 000 personnes, ont dû tenir 13 jours de noir virtuel.
Ah bah ça, on en connaît qui se sous tente à oxygène. Hein.
Ah bah, dans un premier temps, je peux vous dire que ça a été la panique sur place. Les entreprises étaient à l'arrêt, il y a eu des problèmes de ravitaillement, pénurie de médicaments. Mais une fois qu'une connexion très limitée par satellite a été mise en place et que les autorités ont pu pallier aux urgences, eh bien finalement, les habitants ont fini par trouver que c'était pas si mal d'être privé de Facebook ou de YouTube. On a appris à se parler, disent-ils, sans messagerie. Il paraît que les bars n'ont jamais été aussi pleins. Alors, c'est presque dommage, la panne a fini par être réparée. Pour l'anecdote, le câble fait 827 km de long.
L'unique câble.
On comprend que ça ait duré un petit peu. La cause exacte de cet incident n'a pas été identifiée, mais l'hypothèse d'une ancre de navire qui aurait arraché le câble semble la plus plausible.
Allez, Virginie Pironon, sous les radars tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci Virginie.